nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Dans cette émission, je vous propose de braquer notre projecteur sur l'eau avec un spécialiste des questions économiques, Philippe Jurgensen, professeur d'économie à l'École des sciences politiques de Paris, auteur d'un livre intitulé « L'économie verte » paru aux éditions Odile Jacob en février 2009. Comment un économiste analyse-t-il la question de l'eau sur la planète ? Car l'eau, Philippe Jurgensen, c'est à la fois un élément menacé, mais c'est aussi un élément menaçant.
Tout à fait. Sur le côté menaçant, tout le monde voit bien que les catastrophes naturelles tendent à se multiplier, aussi bien des cyclones, des tempêtes qui dévastent des régions entières chaque année, à répétition parfois, que des inondations massives. On en a eu tout récemment en Chine, en Inde, mais il y en a eu en Europe. Dans les dernières années, il y en a eu en Europe centrale, il y en a même eu en France, qu'il s'agisse du Gard ou de la Somme. Donc ce sont des phénomènes dont il est clair qu'ils vont devenir plus fréquents.
Et la fonte des glaces ne va rien arranger.
Et naturellement, la fonte des glaces ne va rien arranger. Alors ça, c'est une autre forme encore plus dangereuse. C'est la montée inexorable du niveau des mers. Pour une double raison, c'est que quand il fait plus chaud, le gonflement thermique fait que le volume des océans augmente par le simple effet du réchauffement. Ça fait monter le niveau de la mer. Et puis, l'autre facteur, c'est effectivement la fonte des glaces. Alors, cette fonte des glaces est caractérisée dans l'océan Arctique, c'est-à-dire au pôle Nord. La banquise a diminué de plusieurs millions de kilomètres carrés de surface et elle a diminué de moitié d'épaisseur au cours des deux ou trois dernières décennies. Les glaciers du Groenland fondent. Alors, il y a beaucoup de polémiques scientifiques là-dessus pour savoir à quel rythme. Enfin, ils fondent quand même pas mal. Dans l'Antarctique, c'est plus controversé. Il y a une partie de l'Antarctique qui tend à fondre, une autre partie, la partie orientale, qui n'a pas l'air de se réchauffer. Mais globalement, il est clair qu'il y a une contribution de la fonte des glaces à la montée des océans. Ce que prévoient les experts internationaux du GIEC, le groupe intergouvernemental d'études sur le climat, c'est qu'il y aura une montée qu'ils évaluent entre 20 et 60 cm au cours de ce siècle. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un phénomène qui ne va pas s'arrêter en 2100. Une fois qu'il est lancé, il y a une force d'inertie absolument considérable. C'est-à-dire que même si le réchauffement climatique s'arrêtait dans les prochaines décennies, pendant encore des siècles, le niveau des eaux continuera à monter sous l'effet accumulé de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Et donc, ça va monter au XXIe siècle, mais également au XXIIe, XXIIIe, etc. Et c'est évidemment un danger majeur parce que la moitié de la population mondiale vit à moins de 60 km d'une côte. C'est un chiffre qu'on ne connaît pas beaucoup, mais c'est très impressionnant. Et évidemment, si l'eau monte de plus en plus, alors non seulement Venise, les Pays-Bas, les Seychelles, les Maldives, etc. vont être complètement noyés, mais ça va aller beaucoup plus loin. Prenez un pays comme le Bangladesh, par exemple, qui est entièrement situé
sur le niveau de la mer,
sur l'embouchure, sur le delta du Brahmapoutre et du Gange qui s'unissent, qui est complètement au milieu des eaux. Il est clair que ce pays de 130 millions d'habitants va être en grande partie noyé. Vous imaginez le drame humain. Donc effectivement, l'eau est menaçante, mais elle est aussi menacée.
Mais elle est aussi menaçante encore parce que j'ai vu que les fleuves aussi allaient se tarir. Est-ce que ça, c'est une menace aussi? Finalement, ce n'est pas une menace immédiate, mais c'est une menace de sécheresse, c'est une menace de désertification.
Oui, alors c'est effectivement une menace pour les populations, notamment dans des régions en partie désertiques ou qui bordent des régions désertiques. Alors l'exemple le plus frappant, c'est celui du sous-continent indien. C'est bien qu'il y a dans le Rajasthan et dans des parties du Pakistan des zones de désert. Ces zones vont certainement s'étendre et les très grands fleuves de cette région, c'est-à-dire l'Indus, le Gange, le Brahmapoutre et puis tout ce réseau hydrographique qui est largement alimenté par les glaciers de l'Himalaya, va énormément souffrir, c'est clair, et ça va avoir des conséquences considérables parce que dans ces pays où il pleut beaucoup dans certaines régions mais très peu dans d'autres, le transport de l'eau par le réseau des fleuves, le réseau hydrographique est très important pour l'irrigation et la survie des populations. Je rappelle au passage qu'il y a 1,5 milliard d'habitants déjà dans le sous-continent indien, Inde, Pakistan, Bangladesh, il y en aura plus de 2 milliards en 2050. Et toutes ces populations vont être très sérieusement menacées par l'assèchement des fleuves. Avec d'ailleurs un phénomène assez curieux, c'est que dans un premier temps, ils vont plutôt se gonfler parce que justement la fonte des glaciers va les alimenter. Et puis ensuite, quand il n'y aura plus rien à faire fondre, ils vont être très largement taris. Et c'est un problème pour dans quelques décennies qui est vraiment grave, qui est identifié.
Alors, abordons maintenant l'eau menacée par beaucoup de choses, la pénurie, la pollution, l'acidification, l'eau qui devient imbuvable, enfin, cette pauvre
absolument.
Eau est
la salinisation menacée. Aussi, oui, oui. Bon, qu'est-ce qui se passe? La salinisation, pour commencer par cet aspect-là, elle est due à la fois à la montée du niveau de la mer. On voit bien que si la mer monte, elle va avoir tendance à remonter le cours des fleuves et donc à saliniser des deltas et des embouchures qui sont très, très densément peuplées en général parce que ce sont des régions très fertiles. Donc ça, c'est un premier problème. Et puis la salinisation est due aussi parfois à de mauvaises pratiques d'irrigation avec de l'eau saumâtre. Bon, enfin, je passe sur les détails. Donc un deuxième problème très important, c'est toute la pollution que nous déversons dans nos rivières et qui tend à s'accumuler. Vous savez qu'on a trouvé du pyralène dans le Rhône, tout récemment encore dans la Somme et dans la Seine.
Ça alors pollue que le pyralène, fleuve, mais ça pollue les nappes aussi.
Absolument, ça pollue le fleuve et les nappes phréatiques. Oui, oui. Et bien entendu, ça s'accumule dans les organismes qui y vivent. On a dû interdire la pêche des poissons. Tout récemment, encore dans la Saône, sur 50 km de plus qu'avant, était déjà interdit tout le long du Rhône, parce que le pyralène est un produit qui s'accumule dans les graisses animales. Les poissons carnivores mangent d'autres petits poissons qui ont déjà absorbé du pyralène, et tout ça se concentre.
C'est une chaîne.
C'est exactement le même phénomène qu'avec la fameuse histoire de Minamoto, vous savez, le mercure qui s'accumulait dans les poissons et qui a fini par tuer des centaines de personnes au Japon. Alors, on n'en est heureusement pas là en France, mais c'est juste un exemple du fait que la pollution, effectivement, s'accumule, se retrouve dans les organismes, donc dans la nourriture, et que ça peut être extrêmement dangereux. Alors, la pollution, elle vient d'où? Elle vient des usines, c'est le cas pour le pyralène. Elle vient aussi, naturellement, de nos déchets ménagers. Tout ce que nous rejetons et qui n'est pas traité convenablement, c'est-à-dire trié et recyclé, se retrouve dans des décharges qui sont lessivées par les pluies et qui finissent dans les rivières. Et n'oublions pas que l'eau potable, elle vient du traitement de l'eau des rivières.
D'une manière globale sur
la planète.
On ne trouve
plus beaucoup de sources et de rivières propres, mais même en France, et d'une manière globale sur la planète, bien entendu. Alors, il faut absolument arriver à nettoyer nos rivières. La pollution est devenue vraiment insupportable. Vous avez dans le monde, plus qu'en France encore, beaucoup de rivières où il n'y a tout simplement plus aucune vie parce qu'elles sont devenues des égouts à ciel ouvert. Alors, c'est vrai du Rio Bogota, c'est vrai de la Volga, c'est vrai du Yangtze en Chine. On a vraiment des situations extrêmement préoccupantes, à tel point que dans beaucoup de cas, on ne peut même plus se servir de cette eau polluée pour irriguer. Elle est vraiment trop de mauvaise qualité. Donc il faut absolument arriver à traiter ces eaux avant déjà que les effluents n'y arrivent, donc qu'on ait une eau plus propre dans nos égouts, pour parler simplement. Et bien entendu, qu'on ait ensuite en aval des stations de traitement des eaux usées qui rejettent des eaux beaucoup plus propres que ça n'est le cas aujourd'hui. Alors, il y a une question qui est de savoir si on va devoir produire de l'eau. Il y a eu des projets, par exemple, pour récupérer l'eau des icebergs en les transportant sur les océans.
Ben oui, puisqu'ils fondent, récupérons.
Oui. Alors, on pourrait les récupérer. C'est une question de coût, en fait. Peut-être que ce projet-là pourra prospérer un jour. Ce qu'on fait beaucoup plus couramment, c'est de dessaler l'eau de mer.
Je ne crois pas que ce soit dans les pays du Moyen-Orient. Je crois que ça se fait
dans les pays du Moyen-Orient, mais même en Espagne. L'Espagne a un programme très vaste d'usines de dessalement parce que l'Espagne manque d'eau. Il manquera plus d'eau dans l'avenir. Alors, là aussi, malheureusement, les projections liées au réchauffement climatique montrent que le sud européen, qui est déjà assez sec, va devenir carrément aride. Et donc, les Espagnols sont très concernés, évidemment. Et donc, ils ont tout un programme de construction d'usines de dessalement tout le long de la côte, depuis Barcelone jusqu'à l'Andalousie.
Mais encore, faut-il avoir les moyens,
faut avoir
les pays
moyens.
Pauvres, alors, qui n'ont pas
le moyen. C'est pour
les
pays riches, déjà, il faut avoir les moyens. Mais surtout, c'est un très gros inconvénient, c'est que ça consomme énormément d'énergie, parce que le dessalement, c'est tout bête. Il faut faire bouillir de l'eau, on récolte le sel qui est dedans, on l'enlève et on a de l'eau potable. Mais ça coûte très cher et c'est très consommateur d'énergie et donc c'est très polluant. Et donc on retrouve un problème, on va alimenter le réchauffement climatique qui lui-même va contribuer à aggraver les problèmes de désertification. Donc ça ne va vraiment pas, ce n'est pas ça le bon procédé. Un bon procédé par contre, enfin plusieurs bons procédés qu'il faut préconiser, c'est tout simplement d'économiser l'eau. et aussi de recycler l'eau. Bon, économiser l'eau, ça veut dire quoi ? On peut ne pas remplir sa baignoire à ras-bord ou lui préférer des douches. On ne peut pas laisser couler le robinet.
Oui, dans les gestes quotidiens.
On peut réparer les fuites, c'est tout bête. Mais dans les circuits de distribution d'eau, il y a constamment des fuites. Dans les pays en développement, on atteint 30 à 50% de fuites dans les réseaux de distribution d'eau, alors que souvent, ce sont des pays qui déjà manquent cruellement d'eau. On peut éviter de faire des canaux d'irrigation à ciel ouvert. On peut les recouvrir. On peut préférer l'irrigation au goutte à goutte à l'irrigation par aspersion. Le goutte à goutte est beaucoup moins consommateur d'eau. Il y a toute une série de procédés pour économiser l'eau. Je vais vous en indiquer un autre. Un procédé qui permet à la fois d'économiser du chauffage et de la climatisation en isolant les logements et de récupérer l'eau de pluie. C'est les toitures végétales et les murs végétaux. Ça se fait de plus en plus, notamment en Allemagne. On est assez en retard là-dessus en France, mais on commence à le faire. Avec une couche végétale dans laquelle on plante, on arrive à récupérer des eaux qui sont préfiltrées et qui peuvent être réutilisées ensuite pour l'irrigation. Et là, on rejoint l'autre aspect qui est celui du recyclage. Il va falloir que nous apprenions à recycler nos eaux. Dans une maison, il y a une partie des eaux qui pourrait très bien être recyclée, retraitée. Alors, c'est vrai que ça ne plaît pas aux gens, l'idée qu'ils vont réutiliser des eaux usées, mais on n'est pas obligé de boire directement des eaux qui ont été usées, encore qu'une fois qu'elles sont traitées, elles sont parfaitement aussi propres. Et n'oublions pas que l'eau du robinet que nous buvons, c'est aussi des eaux usées de nos rivières qui ont été traitées et recyclées. Mais bon, psychologiquement, ça reste difficile. Il n'y a que deux villes dans le monde qui le fassent actuellement. Je pense que quand même, ça se fera de plus en plus dans l'avenir et qu'en tout cas, chacun peut le faire chez soi avec des procédés assez simples. Récupérer l'eau des gouttières, la mettre dans une citerne et s'en servir pour arroser son jardin au lieu d'utiliser l'eau du robinet, c'est quand même pas très difficile. Et c'est un petit exemple de ce que chacun peut faire pour contribuer au recyclage de l'eau.
Donc Philippe Jürgensen, la science, le progrès scientifique et l'économie sont deux disciplines importantes qui peuvent se mettre au service de l'eau.
Tout à fait. Alors, je vais vous donner des exemples là aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour tout développer. Mais du point de vue scientifique, on dispose maintenant de bactéries qui sont extraordinairement efficaces, extraordinairement puissantes et qui aiment absorber de la pollution. Elles en vivent. Elles aiment, alors certaines vont absorber du trichloréthylène, d'autres vont prospérer à partir d'arsenic. Il y a beaucoup d'eau polluée à l'arsenic, notamment dans les pays en développement. D'autres vont apprécier ou survivre, en tout cas, dans des environnements radioactifs. Une des plus étonnantes de ces bactéries s'appelle Deinococcus radiodurans. Elle résiste
à
tout.
Quelle est cette bactérie ?
Elle résiste à une sécheresse totale, à des températures incroyables et à la radioactivité. C'est une bactérie qui a la propriété de savoir réparer elle-même son ADN. Alors, le danger de la radioactivité, c'est qu'elle détruit des séquences d'ADN et donc elle provoque assez rapidement des détériorations des organismes. Bon, cette bactérie miraculeuse, elle résiste à tout. Et elle est capable donc d'être mise dans des environnements absolument insupportables pour n'importe quel organisme vivant ordinaire et d'aider à les traiter. Mais elle n'est pas toute seule. Il y a actuellement des centaines de bactéries ou de virus sur lesquels on fait des recherches et qui sont capables de traiter, par exemple, des sols totalement pollués par une usine chimique, vont pouvoir être traités à condition de les ensemencer en bactéries, de leur apporter des produits nutritifs qui leur conviennent, vont pouvoir en quelques années être rendus presque à l'état de nature. Donc, on a des tas d'alliés. Il faut simplement continuer avec le progrès scientifique à les améliorer, y compris en faisant du traitement génétique pour améliorer leur performance et les utiliser le plus largement possible. Quant à l'économie, je pense que les mécanismes économiques sont finalement assez simples. Les gens réagissent aux signaux de prix. Il faut donner aux gens des signaux de prix. Alors, quelques exemples. En Suisse, par exemple, on vous facture maintenant le volume de ce que vous mettez dans vos poubelles. Alors, évidemment, on n'est pas habitué à le faire en France. Ça commence à se faire, d'ailleurs. Et l'idée va choquer les gens au début, mais c'est une idée parfaitement rationnelle. Plus on met de déchets dans sa poubelle, plus ça coûte à la collectivité de les collecter, de les traiter, de les réunir. Bon, mettre une petite taxe sur la quantité de poubelles, la quantité de produits que chacun met dans ses poubelles aurait certainement un effet incitatif tout à fait important. Prenons un autre exemple, le bonus-malus sur les voitures. Dire que on va faire payer un supplément de prix quand on achète une voiture très polluante et au contraire on va avoir une subvention quand on achète une voiture très peu polluante, bah, c'est exactement
la
mesure incitative économique. Elle peut être parfaitement équilibrée budgétairement et elle me paraît raisonnable, respectant les lois du marché et tout à fait efficace. D'ailleurs, la preuve, c'est que le système a tellement bien marché que le gouvernement a été surpris et s'est trouvé avec un coût qu'il n'avait pas prévu, parce qu'il y a tellement de gens qui se sont reconvertis vers les petites voitures peu polluantes que ça n'est plus compensé par ceux qui continuent à acheter des voitures polluantes. Bah, tant mieux d'un point de vue écologique. Et naturellement, le coût peut être compensé tout simplement en abaissant un petit peu la norme, ce que le gouvernement d'ailleurs n'a pas osé faire jusqu'à présent. Parce qu'au départ, de telles mesures ne sont jamais très populaires. Et c'est pour ça qu'il faut bien voir aussi que pour qu'on puisse faire ces incitations économiques, il faut que les gens soient convaincus. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des livres pour essayer de les convaincre.
Voilà. Merci Philippe Jurgensen de nous avoir éclairé sur le problème de l'eau. On trouvera beaucoup d'autres informations et d'autres chiffres aussi dans votre livre « L'économie verte, comment sauver notre planète » et notamment dans une annexe 33 qui est consacrée aux ressources en eau dans le monde. Donc ce livre « L'économie verte » est paru aux éditions Odile Jacob. Thank you.